Vous êtes avec SBS French. Titre de ce dimanche 6 février, la politique est brutale, déclare le Premier ministre Scott Morrison dans le sillage de la publication d'un SMS du vice-premier ministre Barnaby Joyce qui dit, je cite, que le Premier ministre est un hypocrite et un menteur. Le Forum de l'Islam de France a tenu sa première séance plénière. Après Maurice, la Réunion, le cyclone Batsirai atteint la côte est de Madagascar. La politique est brutale, déclare le Premier ministre Scott Morrison dans le sillage de la publication d'un SMS du vice-premier ministre Barnaby Joyce qui dit, je cite, que le Premier ministre est un hypocrite et un menteur. Barnaby Joyce s'est excusé pour les commentaires formulés en mars de l'année dernière et a proposé de démissionner, ce que Scott Morrison n'a pas accepté. Le Premier ministre a déclaré que Barnaby Joyce et lui-même n'avaient pas eu de relations étroites dans le passé, mais qu'ils continueraient à travailler en étroite collaboration.
Politics is a brutal business. And anyone who pretends it's not, and anybody who pretends that from time to time people don't get angry or bitter or don't act like other human beings, then if you can't accept and understand each other's frailties and be forgiving in those circumstances, then frankly that says a lot more about you than it does about others.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 28 décès dus au coronavirus. L'État compte 7893 nouvelles infections depuis hier. Il y a 2320 personnes à l'hôpital, dont 147 en soins intensifs. Le Victoria a enregistré 6 décès et 7169 nouveaux cas. Il y a 652 personnes à l'hôpital, dont 73 en réanimation. Le Queensland a enregistré 9 décès, 5746 nouveaux cas et 727 personnes à l'hôpital. Le chef de la santé du Queensland, le docteur John Gerrard, affirme que les personnes âgées qui n'ont pas reçu leur dose de rappel sont les plus à risque de mourir, mais le nombre de personnes dans les hôpitaux publics a diminué.
The good news is in the hospitals we have had a further substantial reduction in the number of inpatients in public hospitals down to 663 from 727 yesterday.
Un programme de migration au point mort et le manque d'initiatives gouvernementales ont entraîné une pénurie de travailleurs au service des communautés multiculturelles à travers l'Australie, dans le secteur des services aux personnes âgées, avec une équipe de 140 bénévoles et 230 employés rémunérés. Australian Multicultural Community Services est au service des personnes âgées dans le Victoria depuis 39 ans, mais la directrice Elizabeth Drost affirme que l'organisation s'appuie fortement sur les travailleurs migrants qui parlent plusieurs langues pour fournir un soutien adéquat à leurs clients. Elle déclare qu'avant la pandémie de COVID-19, l'Australie acceptait entre 80 000 et 200 000 migrants chaque année, ce qui est maintenant réduit à 40 000, ce qui a un impact sur les soins à domicile et les personnes âgées dans les communautés multiculturelles.
I've been working in multicultural community services for 30 years and I have never seen this type of workforce shortages. So we have seniors who are asking us to help them live at home and support them. And unfortunately, we are really struggling to recruit enough staff.
Le Japon est frappé par une sixième vague de coronavirus. Le nombre quotidien de contaminations ne cesse d'augmenter. Et depuis quelques jours, le Japon est confronté à une pénurie de tests PCR et de tests antigéniques. Reportage Bruno Duval pour RFI.
Ce pharmacien tokyoïte, comme bon nombre de ses collègues, est désormais en rupture de stock de tests antigéniques.
Ce matin, j'ai vendu les 10 derniers tests qu'il me restait et mon fournisseur est incapable de me dire quand il pourra me réapprovisionner.
Les tests PCR également sont devenus une denrée rare, en tout cas dans un délai de moins de 10 jours, ce que cette patiente apprécie peu.
Je n'ai pas encore reçu ma troisième dose de vaccin et voilà maintenant que par-dessus le marché, il n'est plus possible de se faire tester. Les bras m'en tombent.
Dans les hôpitaux aussi, les tests sont rationnés, comme en témoignent ces deux médecins.
Faute de tests, on essaie de débusquer ce fichu virus via un simple examen clinique. Mais ce n'est pas facile de différencier Omicron d'une grosse grippe hivernale. Et puis c'est risqué de procéder comme ça. Un Covid pas diagnostiqué, c'est l'assurance que la personne concernée va contaminer tout son entourage.
On en est réduit à dépister uniquement les patients les plus mal en point. Le problème, c'est que de plus en plus de malades qu'on n'a pas pu tester voient leur état rapidement se dégrader. Donc si cette pénurie de tests s'éternise et Omicron continue de se propager, on va tout droit à la catastrophe sanitaire.
Et les Japonais n'en ont pas encore fini avec Omicron. Les épidémiologistes n'entrevoient le pic de la sixième vague qu'à la fin du mois, ou plus tôt. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Des milliers de personnes ont défilé dans la ville ukrainienne de Kharkiv hier, samedi, pour protester contre une éventuelle invasion russe. La ville n'est qu'à 40 km des dizaines de milliers de soldats russes massés à la frontière ukrainienne. La foule scandait « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, gloire à la nation, mort aux ennemis ». Une partie du million d'habitants de Kharkiv se dit prête à mener une guerre de guérilla contre la Russie. La résidente Svetlana Galashkov déclare que de nombreux habitants veulent défendre l'Ukraine.
I was born in Kharkiv. I'm a volunteer. And because of the danger and probability of Russia attacking my city, I'm here today. And not only me. We want to show that there are people in Kharkiv who are ready to defend and fight back.
Є люди, які готові обороняти і дати відсіч.
Ryan, le jeune garçon, est mort dans le nord du Maroc après être tombé dans un puits de 32 mètres où il a été piégé pendant 5 jours. Les sauveteurs ont extrait le corps après une opération d'envergure impliquant des bulldozers pour enlever des rochers au milieu des craintes de glissement de terrain et atteindre le garçon par un tunnel d'accès. L'opération avait saisi la nation avec des foules se rassemblant sur le site. Le roi Mohamed VI du Maroc a exprimé ses condoléances aux parents du garçon. Reportage Pierre Firsion pour RFI.
Mais l'annonce a été faite par le cabinet royal dans un communiqué qui précise que le roi Mohamed VI a appelé les parents de l'enfant. Ce soir, tout le pays est plongé dans une infinie tristesse. La population était suspendue depuis 5 jours au sort de cet enfant de 5 ans. En guise de solidarité, des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur le site ces derniers jours. Le sort de Ryan avait également suscité une immense émotion sur les réseaux sociaux. Ce soir, des internautes du monde entier font part sur Twitter de leur tristesse et saluent la mémoire du jeune garçon. Ryan était tombé mardi dans un puits étroit de 32 mètres creusé à proximité de sa maison à Igran dans la province de Chefchaouen. Le diamètre du puits étant trop petit pour descendre, les secours s'étaient résolus à creuser un trou en parallèle à l'aide de bulldozers. Ils avaient ensuite réalisé une brèche horizontale en direction du puits. Les sauveteurs étaient parvenus cet après-midi à pénétrer dans le tunnel menant à la poche où se trouvait l'enfant, mais ils sont finalement arrivés trop tard, eux qui tout au long de ces 5 jours ont été contraints d'avancer très prudemment pour éviter les éboulements.
Le Forum de l'Islam de France a été présenté hier par le ministère français de l'Intérieur. Il remplace le Conseil français du culte musulman, créé en 2003 par l'ancien président Nicolas Sarkozy, alors qu'il était ministre de l'Intérieur et servait d'intermédiaire entre le gouvernement et les chefs religieux. Les 5 millions de musulmans du pays sont quelque peu divisés sur le Forum. Reportage Simon Rosé, RFI.
Sur le papier, le FORIF, le Forum de l'Islam de France, va devoir prendre la place d'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Il doit remplacer le CFCM. Ce forum est une initiative du ministère de l'Intérieur qui en a choisi la centaine de membres. Et s'il répète à l'envi qu'il ne souhaite pas interférer dans les affaires de l'islam, le ministre Gérald Darmanin acte donc la fin d'un système mis en place il y a 20 ans.
Le CFCM ne remplit plus son rôle. Et donc on en a tiré une conclusion. Depuis un an, nous travaillons à cela. Et les mosquées indépendantes, qui représentent plus de 60% des mosquées qui ne sont pas affiliées à une fédération, je crois, sont heureux que nous ouvrons le champ des représentants d'aujourd'hui.
Il faut une représentation plus proche du terrain, moins parisienne. Le constat est partagé par Mohamed Moussaoui, le président, pour quelques jours encore, du CFCM. Il craint cependant que le FORIF ne puisse pas s'attaquer à tous les problèmes.
Une démarche participative qui s'appuie sur les acteurs locaux et non pas sur les fédérations. Ça, je pense, c'est le point central. Après, la question du financement n'a pas été évoquée et je pense qu'on, sans résoudre la question du financement, toutes les propositions ne pourront prospérer.
Le FORIF est en effet composé de 4 groupes de travail et cette question n'est pas abordée, mais il n'est pas exclu de l'y intégrer à l'avenir.
La présidentielle en France, et hier, il y avait ce duel à distance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Éric Zemmour était dans le nord du pays. Reportage Pierre-Olivier, RFI.
Sur les terres défavorisées du nord de la France, la promesse d'Éric Zemmour était claire par les salaires et impositions.
Tous les candidats répètent en boucle qu'ils sont LE candidat du pouvoir d'achat. Oui, je les écoute depuis des semaines et en réalité, de la droite jusqu'à la gauche, ils disent tous la même chose. Ils ne disent rien.
Éric Zemmour déroule ses propositions, attaque Valérie Pécresse, Emmanuel Macron. Le pouvoir d'achat donc, mais rapidement, l'obsession migratoire d'Éric Zemmour revient au galop.
Savez-vous qu'en plus d'un hébergement gratuit, nous donnons à chaque demandeur d'asile pendant près d'un an une carte bancaire créditée de 430 euros par mois afin que celui-ci puisse dépenser tranquillement l'argent de vos impôts.
Galvanisé devant plus de 6000 personnes, Éric Zemmour flatte son auditoire sans jamais citer Marine Le Pen.
RSA, allocation familiale, aide au logement, il n'est plus admissible que votre fiche de paye vienne financer l'assistanat des étrangers.
Mélanger pouvoir d'achat et immigration, un cocktail savamment dosé par Éric Zemmour pour tenter de séduire de nouveaux électeurs sur ces terres du Nord, d'habitude acquises à Marine Le Pen.
Et Marine Le Pen était à Reims. Reportage Julien Chavanne pour RFI.
Pas une seule fois, elle n'aura prononcé son nom. Marine Le Pen aura soigneusement évité de parler d'Éric Zemmour. Ses coups, elle les a presque réservés exclusivement à Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron n'est pas seulement méprisant, il est déprimant.
Une cible, le président sortant, et des alliés politiques à travers l'Europe. De Matteo Salvini en Italie à Viktor Orban, le premier ministre hongrois.
A szabad világ hangja, Budapest. Üdvözlet a nemzeti tömörülés.
Changement de ton au bout d'une heure de discours. Marine Le Pen quitte son pupitre, s'avance vers la foule pour parler d'elle, de l'attentat contre son père quand elle avait 8 ans et de sa famille.
Très vite, j'ai connu la violence politique quand j'étais petite fille à l'école. On m'a fait payer l'engagement de mon père. Et puis je suis devenue maman, vite, d'une famille nombreuse, vite, 3 enfants en moins d'un an. Je sais la difficulté psychologique que ça représente d'être en même temps le papa et la maman.
Marine Le Pen joue la carte personnelle comme jamais, tentative inédite pour distancer ses adversaires. Un dernier sondage donne à nouveau Marine Le Pen au coude à coude avec Éric Zemmour.
Après Maurice et La Réunion, le cyclone Batsirai atteint la côte est de Madagascar. Laetitia Bezin pour RFI est sur place à Antananarive.
De nombreuses cases détruites, des arbres tombés qui barrent la route et une ville inondée par la montée de la mer. Des vagues immenses qui retombent avec beaucoup de force, c'est ce que décrit le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Mananzar, commune d'entrée du cyclone. Les toits de plusieurs sites d'hébergement se sont envolés et les déplacés qui s'y trouvaient ont été transférés dans le collège de la ville, poursuit le capitaine Eninzu Ravaala, qui précise qu'il est pour l'heure impossible de sortir pour évaluer les dégâts à cause de la puissance du vent. À 100 km au nord de Nosyvar, plusieurs poteaux électriques sont tombés, décrit un membre des forces de l'ordre. Plus au sud, à Manakkar, les vents et les pluies sont aussi très intenses. Un peu plus de 6000 personnes ont été déplacées. 9 régions et 6 districts de la côte est et des Hautes-Terres sont en alerte rouge de danger imminent. Des centaines de foyers sont privés d'électricité. Celle-ci a été coupée par précaution à cause de la force des rafales de vent et des pluies, ont indiqué les autorités. Les dégâts sont encore difficiles à évaluer, explique le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Un peu plus de 40 000 habitants de toute l'île ont été évacués dans des écoles, des gymnases ou encore des églises avant l'arrivée du cyclone.
Et on passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 29 degrés. Adélaïde, 32. Melbourne, 29. Hobart, 21. Canberra, 21. Sydney, 25. Brisbane, 28. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximale de 31 degrés. Un rappel des grands titres de ce 6 février. La politique est brutale, déclare le Premier ministre Scott Morrison dans le sillage de la publication d'un SMS du vice-premier ministre Barnaby Joyce qui dit, je cite, que le Premier ministre est un hypocrite et un menteur. Après Maurice et La Réunion, le cyclone Batsirai atteint la côte est de Madagascar. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ?
continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.